Bonsoir, comment allez-vous? Pensez-vous à votre corps? On l'évoque, le corps, à propos du sport, du sexe, de la maladie. Mais là, tel que vous êtes à écouter France Inter, que vous racontent vos pieds, votre nombril, vos épaules, votre bassin? C'est le corps qui informe l'esprit. Nous ne pouvons pas forcer notre corps à faire des choses pour lesquelles il n'est pas conçu, dit la chorégraphe Anna Halprin. Elle dit aussi, il faut aimer son corps inconditionnellement. Et Anna Halprin a aimé les sculptures de Rodin au point d'en faire une chorégraphie sur les plages et les forêts de Californie. Les danseurs y sont nus comme des sculptures. C'est ce travail qu'a filmé Rudy Gerber. Vous pouvez voir ce documentaire magnifique dans les salles depuis le 28 septembre. Il s'appelle « Voyage vers la sensualité ».
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi dans les peintures, les femmes nues étaient toujours assez grosses. Est-ce parce que le peintre les déformait ou parce qu'elles l'étaient? Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Alice. Les femmes nues étaient assez grosses. Autrefois, dis-tu, Françoise Barbegal, historienne de l'art, que pensez-vous de cette question d'Alice?
Ah oui, parce que c'est vrai que quand on regarde des nues de Rubens, par exemple, on peut les trouver un peu dodues, ces dames. Hein. Bon, c'est une question de mode. On était sans doute plus dodu à cette époque-là, on l'était aussi par exemple autour de 1900, donc nécessairement quand Renoir peint une femme nue, il la peint bien en chair. Mais ça n'est pas toujours vrai. Après tout, quand on voit la Vénus au miroir de Velázquez par exemple, un grand peintre espagnol du XVIIe siècle, on a l'impression qu'elle pourrait sortir du tableau et ce serait une femme d'aujourd'hui très élancée, très svelte, très mince. Donc, la réponse, non, il ne déformait pas les nues, il ne les modifiait pas, il ne les changeait pas. Si on regarde bien, en se promenant dans un musée, et en allant, par exemple, du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que non, elles ne sont pas toutes si grosses que ça.
Les Égyptiennes avaient l'air assez longilignes.
Elles sont assez longilignes, avec souvent des hanches très très larges.
Ah oui.
Qui sont aussi accentuées, parce que c'est l'image de la fécondité, à ce moment-là, de la femme qui porte les enfants. Et de même, quand on regarde les statuettes très anciennes de la préhistoire, les statuettes paléolithiques, on voit des personnages qui sont énormes. Elles ont d'énormes ventres, elles ont des hanches, des fesses colossales. Mais parce qu'on les représente comme des statues de la fécondité, comme des images de la fécondité de la terre. Alors c'est vrai, là, on les déformait. Mais c'est une chose qui n'est plus tout à fait exacte quand il s'agit de la peinture.
Mais encore une fois, si vous parlez de Rubens, peut-être que dans sa vie personnelle, et les autres peintres qui ont peint des femmes rondes, dans leur vie personnelle, peut-être qu'ils aimaient les nanas bien en chair.
On les aimait quand même bien en chair. On avait l'impression que ça donnait une image de féminité, de fécondité, de bonne santé aussi. Qu'une femme plus maigre, on aurait dit à l'époque, n'aurait pas donné. La minceur n'était pas tellement à la mode à cette époque-là.
Pour mieux faire envie que pitié.
C'est ce qui est passé finalement dans les expressions courantes, oui, c'est vrai.
Et quelqu'un comme Botero,
alors pour Botero, on peut pas dire que Botero peint des grosses dames, parce que Botero utilise exactement le même type de module pour tous les personnages qu'il peint, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc ça, c'est un vocabulaire. Et même s'il peint un chien, Botero va le représenter aussi très très rond. Botero représente des personnages, je dirais, qui occupent l'espace, qui obligent l'espace à se rendre compte qu'ils existent. Mais c'est vraiment un style particulier, c'est une volonté personnelle. Il ne peint pas plus de grosses dames que de gros hommes.
Françoise Barbegal vient d'éditer au Chêne un très joli livre qui s'appelle, et très intéressant surtout, « Comment regarder un tableau ». Nous saurons ce soir dans Les Petits Bateaux si on peut traiter son chat pour qu'il ne procure pas d'allergie, si on peut faire pousser du café en France et quel est le plus grand pont du monde. Charles Pépin, vous le connaissez bien, il est agrégé de philosophie, il est diplômé de Sciences Po et d'HEC, il enseigne la philo dans un lycée et il écrit beaucoup de livres que vous retrouverez sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi dans son nuit la journée dure plus longtemps et que quand on s'ennuie pas, la journée est plus courte et pourtant la journée dure la même longueur. Merci de nous répondre. Au revoir.
Merci Alice, bien observé. On a répondu à Alice. La justice n'est pas de ce monde. Il y en a beaucoup d'autres, des questions sur l'ennui et le temps, Charles Pépin.
Bravo pour la formulation de la question. C'est très très bien dit. On dirait du Bergson. Bergson nous explique la différence entre le temps et la durée. Le temps, c'est ce qui s'écoule objectivement, ce que la pendule indique. Et la durée, c'est le temps subjectivement vécu. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, ça passe très lentement, comme dans un cours de philo, par exemple, où les élèves s'ennuient. Et en même temps, quand le cours est passionnant, une heure passe comme cinq minutes. Alors, la question du pourquoi est compliquée. Mais si on décrit ce qui se passe, on comprend que ça veut dire qu'on a un énorme pouvoir sur le réel, que le réel n'est pas objectif, comme un écoulement temporel objectif, que nous avons le pouvoir de le colorer d'intensité ou d'ennui en fonction de notre investissement affectif, en fonction de notre présence finalement. Et c'est très intéressant parce que ta question, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. Et peut-être que, au fond, la réponse, c'est que la vérité de l'existence, c'est la durée. Et que le temps objectif qui s'écoule, en fait, ne mesure rien. Il est nécessaire pour les rendez-vous professionnels, il est nécessaire pour la vie en société. Mais la vérité de la vie que les artistes rencontrent dans l'intuition, que nous rencontrons dans l'amour, c'est la durée. Et peut-être, et c'est ce que veut dire Bergson, c'est une idée magnifique, qui est qu'au fond, tout ce qui est vrai dure. Et dure plus ou moins longtemps en fonction de la manière dont on le vit. Ce qui veut dire aussi que, un, il n'y a pas d'objectivité absolue. Ça n'existe pas, l'objectivité, ou alors très peu. Et surtout, deux, nous, les humains, et a fortiori ceux qui vivent des choses intenses, des émotions, des affects, à savoir nous tous, quand nous avons la chance de vivre cela, nous avons le pouvoir, quelque part, de réinventer les choses, de réinventer le monde, en le recevant subjectivement, c'est-à-dire, au fond, en le vivant, en l'éprouvant, et non pas en le subissant.
Merci Charles Pépin. Le dernier livre de Charles Pépin est aux éditions Alary. Il s'appelle « Les vertus de l'échec ». Et il raconte comment des gens que vous connaissez bien, les Beatles, J.K. Rowling, a essuyé quelques échecs avant de réussir. Les échecs font partie de la vie.
J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher, sauvage. En cavale, hey. J'ai toujours rêvé d'être un gringo, vivant de rapines. Chercheur d'or, chasseur de primes. Un vrai salaud, hey. Un desperado, hors la loi. Perdu dans un canyon désert. Qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw. J'espère. Yeah. Un brelan d'as planqué dans la manche, une balle à mettre dans le dos, du beau cow-boy solitaire, du héros. Desperado, hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère.
Et oui, vous avez reconnu Jacques Higelin, Lanson Bad Boy.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous étions sidérés dans le bureau, Flora, Marjorie et moi, devant une publicité pour une machine non pas à espresso, mais à biberon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des capsules de café, il y a des capsules de lait. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. C'est... Non, mais je n'ai pas envie d'en dire du mal, donc je ne vais rien dire. Vous savez d'où vient le lait? Bon, ça c'est une chose. Et vous savez d'où vient le café?
Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans, et j'aimerais savoir pourquoi on ne fait pas pousser le café en France. Merci.
Bonsoir Héloïse. Alors nous n'avons pas posé ta question à quelqu'un qui fait pousser du café. Patrick Masson, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous êtes importateur de café. Vous êtes le directeur général de la maison Paul Jobin qui est au Havre.
Tout à fait. Alors j'ai pas le plaisir de faire pousser du café, c'est vrai. Mais le groupe dont je fais partie possède lui aussi des fermes. Il possède des fermes en Afrique et en Amérique latine. Bon, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que lorsqu'on travaille dans l'importation de café et lorsqu'on travaille dans le café en général, on est passionné par le produit, par l'ensemble du produit. L'ensemble du produit, c'est la plante, c'est les gens qui la récoltent aussi. Il y a un facteur humain très très important. Et puis, il y a évidemment des qualités gustatives qui sont déterminantes parce que le café, c'est un bon produit. Alors, pourquoi on ne le fait pas pousser en France?
Mais d'abord, dites-nous comment ça pousse.
Voilà.
C'est quoi?
Voilà. Alors, le caféier, c'est un arbuste. C'est un arbuste et il y a deux espèces principales. Il y a le Robusta et l'Arabica, plus un certain nombre de sous-espèces, entre guillemets. Et là-dessus, on plante une graine de caféier et on arrive à obtenir un arbuste qu'il faut tailler parce que sinon il est trop haut pour pouvoir le récolter. Et puis, en fait, quand vous voyez des plantations de caféiers, eh ben, ça ressemble un peu à des plantations de vignes, à des vignes, tout simplement. Et vous avez des caféiers qui sont alignés. Il y a même certains pays où on peut avoir des récoltes mécaniques, hein, comme un petit peu comme dans la vigne. Hein. On arrive à le faire. Alors, il ne faut pas que le terrain soit trop pentu, trop vallonné, et il ne faut pas que ce soit du café sauvage. Par contre, vous prenez un pays comme l'Éthiopie, le café est disséminé autour de cases. C'est extraordinaire. Et vous avez des gens là, moi je suis fasciné par ce pays, qui ont très peu de moyens, et qui arrivent à vous faire un café formidable, qui est probablement un des meilleurs cafés au monde, alors qu'ils ont très très peu de moyens et d'infrastructures. Malgré ça, ils ont une qualité de produit, une qualité probablement aussi d'environnementale, qu'on arrive à avoir des cafés qui sont absolument formidables. C'est les fameux cafés que l'on appelle des Sidamo ou bien des Irgacheffe, qui sont des cafés assez extraordinaires. Je ne vais pas vous citer toute la liste des cafés d'Éthiopie, mais il y en a un certain nombre. Alors, pour revenir à la question qui était de savoir pourquoi on ne fait pas pousser de caféier en France, de café, hein, parce que en fait, le café, c'est le fruit d'un arbre, d'un arbuste qui s'appelle le caféier. Pourquoi on ne fait pas pousser de café? Parce qu'il faut trop d'eau. Le café doit pousser dans les zones tropicales. Et d'ailleurs, si vous regardez une map monde, vous prenez le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, et entre les deux se situent absolument tous les producteurs de café. Il n'y en a aucun au-dessus, aucun en dessous. Et en plus, le café craint le gel, le caféier craint le gel. Ce qui veut dire que si vous êtes dans des climats où il peut geler, eh bien à ce moment-là, votre récolte est détruite. On a connu ça au Brésil. La dernière gelée importante au Brésil remonte à 1994, où on a eu, à cette époque-là, la destruction d'une grande partie de la récolte de par une gelée importante. C'est pour ça d'ailleurs que les plantations ont été remontées vers le nord, puisque au Brésil, on est dans l'hémisphère sud, et pour se rapprocher de l'équateur, il faut aller vers le nord. Voilà la raison pour laquelle on ne fait pas pousser de café en France ou dans les régions qui ne sont pas des régions tropicales.
Alors c'est curieux, Patrick Masson, mais alors je suis pas trop bonne en géographie, mais je pensais pas que l'Éthiopie était un pays humide, je le voyais sec. Moi.
Alors l'Éthiopie a souffert pendant longtemps, dans le nord de l'Éthiopie, de sécheresse, mais si vous allez en Éthiopie, allez dans le sud et vous verrez, c'est pas sec du tout, c'est même souvent de la forêt. C'est une végétation tropicale relativement dense, c'était un climat très humide, et il y a évidemment suffisamment d'eau pour faire pousser du café.
Hein. D'accord.
Il n'y a pas de souci.
Vous dites, Patrick Masson, que le caféier, on le taille. Si on le taille pas, il peut monter à combien?
Alors le caféier, si on le taille pas, il peut monter probablement aux alentours d'une dizaine de mètres, c'est-à-dire que ça devient totalement inexploitable. Il doit être taillé à hauteur, grosso modo, vous voyez, un homme qui lève le bras, et à ce moment-là, on a à peu près la hauteur d'un caféier qui reste possible de travailler et d'exploiter.
Merci Patrick Masson, monsieur café. C'est incroyable, c'est probablement la boisson qu'on boit le plus, que nous sommes le plus nombreux à consommer, et sur laquelle on sait le moins de choses. Avez-vous un chat?
Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 11 ans, et je voudrais savoir si on pourrait traiter un chat pour qu'il ne donne plus d'allergies. Merci, au revoir.
Bonsoir Alexandre. Docteur Florence Trébuchon, allergologue. Vous avez écrit « Vaincre l'asthme et les allergies » et c'est édité chez Albin Michel.
Ben là, j'entends dans la question d'Alexandre un appel, un SOS. Hein. Je comprends bien, bonsoir Alexandre, que tu es sûrement allergique au chat ou peut-être un de tes frères ou une de tes sœurs et que tu aimerais malgré tout accueillir un chat chez toi. C'est compliqué. Alors, les chats sont très allergisants. La protéine du chat est une protéine extrêmement allergisante. Alors déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas allergique au poil du chat.
Ah bon ?
Mais une protéine microscopique qui se trouve dans sa salive, dans ses urines et dans ses glandes sébacées.
C'est pas les poils, donc on peut épiler son chat, ça changera rien.
Et voilà. En fait, le poil n'est que le vecteur, en fait. Le chat va déposer en se léchant, parfois en faisant pipi, ou va déposer cette protéine invisible sur ses poils. Et la particularité de l'allergie au chat, c'est que cette protéine va se diffuser dans l'air parce que le chat va aller sur des tissus, un canapé, un lit, une moquette, un tapis, va y déposer ses protéines allergisantes. Quand le chat s'en va, eh bien ces protéines vont continuer à être diffusées dans l'air. C'est pour ça que quelqu'un qui est allergique au chat peut être gêné dans une pièce, même s'il n'y a pas de chat. Et on dit même qu'il faut 6 mois après le départ d'un chat pour qu'il n'y ait plus d'allergène de chat dans l'habitat. C'est dire que c'est une protéine extrêmement allergisante et que des mesures pour limiter l'exposition sont très difficiles. Il y a un travail qui a évalué, qui a analysé la poussière qu'on récoltait dans des cabinets médicaux, dans des écoles et dans des hôpitaux.
En principe, ça devrait être nickel.
Il n'y a pas de chat dans ces endroits-là.
Non.
Eh bien, dans cette analyse, on a retrouvé des allergènes de chat. Pourquoi ? Parce que les gens qui viennent à l'école, à l'hôpital, au cabinet médical, ont sur eux des allergènes de chat et vont les déposer dans la poussière. Il y a même des gens qui sont gênés par procuration. Par exemple, une collègue de travail qui a un chat et qui vit très collé à son chat va amener des allergènes de chat au bureau. Un enfant qui a un voisin de classe qui est très collé à son chat va amener les allergènes de chat et peut déclencher une crise d'asthme pour son petit copain.
Alors, docteur Trébuchon, moi j'ai un chat, je reçois quelqu'un qui est allergique au chat, je passe bien l'aspirateur partout.
Et oui, alors on veut bien faire. La question de l'aspirateur est très intéressante. Le problème de l'aspirateur, c'est que les aspirateurs les plus courants ne vont pas filtrer les allergènes de chat et ne vont pas non plus filtrer les acariens. D'ailleurs, parce qu'en fait, ces protéines allergisantes sont de l'ordre du micron. Le micron, c'est 10-6.
Oui, mais c'est dans le sac.
Et non. Dans le sac, il y a les grosses poussières. Mais l'air qui est rejeté de l'aspirateur va rejeter l'allergène de chat, l'allergène d'acarien. Ah. Alors, sauf si on est équipé d'un aspirateur particulier qui comporte ce qu'on appelle, nous, un filtre HEP, un aspirateur avec un filtre à haute efficacité particulière, c'est-à-dire qui va filtrer les particules de la taille du micron. Et si vous achetez un aspirateur et qu'on vous dit qu'il est anti-acarien ou anti-allergène de chat, ne croyez pas le vendeur, vérifiez juste dans la notice technique s'il est équipé d'un filtre HEP.
D'accord, sinon tout va dans l'air et pas dans le sac.
Et pour terminer pour Alexandre, des Américains ont essayé de développer une race de chats hypoallergéniques. Ces chats mouraient très précocement et aujourd'hui la piste n'a pas pu être poursuivie.
Voilà qui est dit et voici Cat Power. Vous connaissez le numéro du répondeur, 01 56 40 43 57.
Come together, free. Everybody, get together, free. It's okay if you can't stand to let her dance. It's okay. Right, come on and take a chance. True romance when you dance. Free. Don't be in love with the autograph. Just be in love when you scream that song.
C'est effectivement le titre de la chanson. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants, même des grands, posent des questions et des savants répondent.
Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 7 ans et demi. Je voudrais savoir quel est le plus grand pont du monde. Merci.
Le plus grand pont du monde, Michel Virlogeux, vous qui êtes ingénieur, consultant indépendant, mais surtout constructeur de ponts, on peut dire ça comme ça?
Absolument.
Alors Jeanne, aimerais savoir quel est le plus grand pont du monde?
Eh bien, le plus grand pont du monde est au Japon. C'est le pont d'Akashi Kaikyo qui relie l'île principale du Japon, l'île de Honshu, à un petit îlot. Et de là, avec un autre pont qui s'appelle le pont de Naruto, on rejoint une autre île à l'est, qui est l'île de Shikoku. Ce pont, au total, il a une longueur d'à peu près 4 km et il y a deux grands pylônes dans la mer qui portent les câbles sur lesquels est suspendu le tablier. Le tablier, c'est là que roulent les voitures. Et la portée entre les deux pylônes est de 1991 mètres. Alors ce pont a un tablier en treillis. Alors un treillis, c'est une structure qui est constituée d'une série de barres qui fait que le pont est très haut, alors je pense une quinzaine de mètres, je me souviens plus très bien de la hauteur. Il est très large puisqu'il porte une autoroute. Et puis, il est fondé donc dans la mer avec des pylônes en acier qui s'appuient sur une fondation en béton. Et cette fondation en béton, c'est un énorme cylindre de béton de 80 mètres de diamètre et de 80 mètres de hauteur qui est posé au fond de la mer et qui, au total, ça fait 300 000 mètres cubes de béton. Et les câbles porteurs, les grands câbles sont ancrés sur chaque rive dans un énorme massif d'ancrage qui est capable de résister à la traction des câbles porteurs qui portent tout le poids du tablier et des voitures qu'il y a dessus. Et ce massif d'ancrage, lui aussi, représente à peu près 300 000 mètres cubes de béton. 300 000 mètres cubes de béton, c'est 750 000 tonnes. Donc ça représente à peu près le poids de 500 000 grosses voitures.
Et il a été construit en quelle année, ce grand pont, à peu près?
Alors, le pont de Akashi Kaikyo a été mis en service en 1998.
Donc, à ce moment-là, vous étiez déjà, entre guillemets, en service en France.
Il y a longtemps.
Vous échangez entre vous? Parce que vous êtes allé le voir, ce pont, évidemment, ça devait vous démanger.
J'y suis allé plusieurs fois. Oui. Alors, en fait, j'ai beaucoup de relations avec le Japon, parce que je suis très ami avec un ingénieur japonais qui a une entreprise de précontrainte qui s'appelle le docteur Morimoto. Et à un moment, j'ai été associé, mais de très loin quand même, soyons bien clairs, hein, associé à la construction du pont de Tatara, qui est un pont à haubans qui a battu le record de portée du pont de Normandie, dont j'étais le concepteur. Et les ingénieurs japonais m'ont demandé de participer au comité de suivi du pont de Tatara.
Michel Virlogeux, vous venez d'évoquer le pont de Normandie. J'imagine qu'en France, par exemple, une des contraintes, c'est, disons, le vent. Et au Japon, une des contraintes, c'est la terre qui bouge. Ce sont pas les mêmes?
Alors, les deux grands ennemis des grands ponts sont le vent et les séismes, mais surtout le vent. Alors pourquoi? Eh bien, le problème, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. C'est-à-dire que lorsque l'excitation va avoir une fréquence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça vibre d'une certaine façon, correspond à une fréquence de vibration du pont. Or, il se trouve que les fréquences des excitations sismiques, quand la Terre tremble, ont des périodes de vibration très courtes. Ce sont des choses très rapides. Et les très grands ponts, eh bien, eux, ils ont des périodes de vibration très, très longues, très, très longues. Et donc, si vous voulez, quand le séisme vient attaquer un grand pont, eh bien, il commence à partir quand l'attaque arrive, mais il n'a pas le temps d'aller bien loin que ça revient en sens inverse. Et donc, les grands ponts sont peu sensibles au séisme. Alors qu'au contraire, les turbulences du vent, les rafales, ont des fréquences qui sont dans la même gamme que les grands ponts suspendus et les grands ponts haubans. Donc, le vrai ennemi des grands ponts, c'est le vent. Et pour donner un exemple, le pont d'Akashi Kaikyo, qui a été essayé en soufflerie, les Japonais ont construit une soufflerie spéciale pour le pont d'Akashi Kaikyo, avec une veine, avec l'endroit dans la salle, le tunnel faisait 40 mètres de large pour essayer le pont. Cette soufflerie a permis d'évaluer le déplacement transversal du pont en cas de typhon, c'est-à-dire c'est les grandes tempêtes. Dans certaines régions, aux États-Unis, on appelle ça des cyclones, au Japon, on appelle ça des typhons. Eh bien, le déplacement transversal du pont d'Akashi Kaikyo peut atteindre 20 à 30 mètres.
Ah, c'est une balançoire.
Oui.
C'est fini pour ce soir, mais nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Merci à Flora Bernard, Marjorie Duvoucou, Jean-Baptiste Audibert et Julien Michel. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site. Vous y trouverez des choses intéressantes.